Paul bondit vers la porte, sa mère à ses côtés. Idaho bloquait le passage. Ses yeux injectés de sang brillaient au travers de la brume du bouclier. Il y avait des mains comme des serres derrière lui. Des arcs d'acier qui s'abattaient en vain, la bouche incandescente d'une charge tétanisante, et les lames d'Idaho, partout, dansant, frappant, ruisselantes de sang. Et puis Kynes se retrouva aux côtés de Paul, et ensemble, ils pesèrent de tout leur poids sur la porte. Paul eut une dernière vision d'Idaho, au centre d'un essaim d'uniforme Harkonnen, de ses gestes vifs, contrôlés, de sa chevelure grise marquée d'une fleur rouge immortelle. Puis la porte se referma et Kynes mit les verrous en place. « Il semble que mon choix soit fait, » dit-il. « Ils ont dû repérer votre installation avant qu'elle ait cessé de fonctionner, » dit Paul. Il écarta sa mère de la porte et lut le désarroi dans ses yeux. « J'aurais dû soupçonner quelque chose en ne voyant pas arriver le café, » dit Kynes. « Il existe une autre issue. Pouvons-nous l'emprunter ?» Kynes s'inspira profondément. « Cette porte devrait résister au moins 20 minutes, sauf s'ils utilisent des pistolets laser. Ils ne le feront pas. Nous pourrions avoir des boucliers. » « C'était des sardokars en tenue d'Harkonnen, » murmura Jessica. Maintenant, des coups résonnaient à la porte, en cadence. Kynes désigna la rangée d'armoires métalliques. « Par là !» Il s'approcha du premier meuble, ouvrit un tiroir et tira une poignée à l'intérieur. L'ensemble des armoires pivota, démasquant l'entrée d'un tunnel obscur. « Cette porte est également cristacier, » dit Kynes. « Vous étiez bien préparé ?» remarqua Jessica. « Il y a 80 ans que nous vivons avec les Harkonnen. » Il les poussa dans les ténèbres et referma la porte. Devant eux, sur le sol, Jessica distingua immédiatement une flèche lumineuse. « Nous allons nous séparer ici, » dit la voix de Kynes du fond de l'ombre. « Cette muraille est plus solide encore que les autres. Elle tiendra bien 1 heure. Suivez les flèches sur le sol. Elles s'éteindront à votre passage et vous guideront dans le labyrinthe. À la sortie, vous trouverez un ornis que j'ai préparé. Cette nuit, il y a une tempête sur le désert. Votre seule chance est d'aller à sa rencontre, de plonger droit dedans et de la suivre. C'est ainsi que procède mon peuple pour voler les ornis. En restant en altitude, vous pourrez survivre. « Et vous ?» demanda Paul. « Je vais tenter de m'enfuir d'une autre façon. Et si je suis capturé, eh bien, je reste encore le planétologiste impérial. Je pourrai toujours dire que j'étais votre prisonnier. » « Nous courons comme des lâches, » songea Paul. « Mais comment pourrais-je survivre autrement et venger mon père ?» Dans l'obscurité, il s'était retourné vers la porte. « Duncan est mort, Paul, » dit la voix de Jessica. « Tu l'as vu, il était blessé. Il n'y a rien que nous puissions faire pour lui. Un jour, je leur ferai payer tout cela. »« Alors il faut vous hâter maintenant, » dit Kynes. Sur son épaule, Paul sentit la main du planétologiste. « Quand nous retrouverons-nous, Kynes ?» demanda-t-il. « J'enverrai des Fremen à votre recherche. Ils connaissent la route de la tempête. Dépêchez-vous. Et que la grande mère vous donne la chance et la vitesse. » Dans les ténèbres, ils entendirent s'éloigner le bruit de ses pas. Jessica prit la main de Paul, le tira doucement. « Il ne faut pas nous séparer. » « Non. » Il suivit Jessica au-delà de la première flèche qui s'éteignit sous leurs pas, tandis qu'une autre naissait devant eux. Ils s'avancèrent. La flèche mourut. Une autre se dessina. Ils se mirent à courir. Des plans dans des plans dans des plans sans cesse, pensa Jessica. Participons-nous au plan de quelqu'un d'autre en ce moment? Les flèches les emmenaient de tournant en tournant. Au passage, ils devinaient des embranchements à peine esquissés par la faible lueur des flèches. À un moment, le sol s'inclina pour se relever ensuite. Ils continuèrent à monter et atteignirent des marches. Un dernier tournant, et ils se retrouvèrent devant une paroi faiblement lumineuse. Une poignée sombre apparaissait au centre. Paul la prit et appuya. La paroi s'éloigna et la lumière jaillit, leur révélant une caverne taillée dans le roc. L'ornithoptère était là. Derrière lui, Un signe sur un haut mur gris indiquait une porte. « Où est Kynes ?» demanda Jessica. « Il a fait ce qu'aurait fait n'importe quel chef de guérilleros, » dit Paul. « Il nous a séparés en deux parties et s'est arrangé pour ne pas pouvoir révéler où nous nous trouvons si jamais il vient à être pris, car il ne le sait pas. » Il entraîna sa mère dans la caverne, remarquant que leurs pieds s'enfonçaient dans une épaisse couche de poussière. « Nul n'est venu ici depuis très longtemps, » dit-il. « Il semblait certain que les Fremen nous retrouveraient. Je le suis également. » Paul lâcha la main de Jessica, s'approcha de l'ornithoptère, ouvrit la porte de gauche et plaça le Fremkit à l'arrière. « Cet appareil possède un masque antidétecteur, » dit-il. « L'éclairage et les portes sont commandés automatiquement à partir du tableau de bord. Ces 80 années de fief Harkonnen l'auront appris à être prévoyant. » Jessica s'appuya contre le flanc de l'orni pour reprendre son souffle. « Les Harkonnen ne sont pas stupides, » dit-elle. « Ils auront placé une couverture aérienne. » Elle consulta son sens de la direction et tendit la main vers la droite. « La tempête se trouve par là. » Paul acquiesça, luttant contre une soudaine répugnance à se mouvoir. Bien qu'il en connût la cause, cela ne l'aidait en rien. Quelque part, durant cette nuit, il avait passé un nexus de décision dans l'inconnu le plus profond. Il connaissait désormais la région temporelle qui les entourait, mais le présent immédiat demeurait un mystère. C'était comme si, de très loin, il se voyait lui-même disparaître dans une vallée. De tous les chemins qu'il pouvait emprunter pour apercevoir de nouveau Paul Atreide, rares étaient ceux qui ne se perdaient point. « Plus nous attendrons, plus ils seront prêts, » dit Jessica. « Montez et fixez votre ceinture, » dit-il. Il la rejoignit, luttant toujours contre la pensée qu'il se trouvait dans une zone obscure, une zone que nulle vision presciente ne lui avait révélée. Et brusquement, il comprit qu'il avait accordé de plus en plus de crédit à ses pouvoirs prescients et que cela l'avait affaibli en cet instant capital. Si vous vous fiez à votre seul regard, vos autres sens s'effacent. C'était un axiome Fremen. Il se jura de le faire sien à partir de maintenant et de ne jamais retomber dans le piège, si jamais il en sortait. Il boucla son harnachement de sécurité, vérifia celui de sa mère, puis se pencha sur les contrôles. Les ailes étaient totalement déployées, leurs délicates nervures métalliques au maximum d'extension. Il posa la main sur les barres de rétraction et vérifia qu'elles se repliaient bien pour la poussée initiale des fusées, ainsi que le lui avait enseigné Gurney Halleck. Le contacteur jouait librement. Sur le panneau de commande, les cadrans s'illuminèrent à l'instant où il arma les fusées de départ. Puis les turbines firent entendre leur sifflement assourdi. Prêt ? Demanda-t-il. Oui. Il appuya sur la commande automatique d'éclairage. Les ténèbres s'abattirent sur l'appareil. La main de Paul ne fut plus qu'une ombre qui se déplaçait sur le fond lumineux des cadrans. Il pressa la touche de contrôle des portes et immédiatement, ils perçurent des grincements. Le sable s'abattit en cascade, puis le silence revint. Sur ses joues, Paul sentit une brise qui portait des grains de sable et il ferma la porte de l'orni. La pression intérieure s'établit aussitôt. La porte s'était effacée, et dans le polygone de nuit ainsi découvert, les étoiles clignotaient, estompées par la poussière. Leur clarté changeante révélait les courants de sable. Paul posa le doigt sur la touche de départ. Les ailes de l'orni se mirent à battre régulièrement. Le grand insecte jaillit hors de son nid. Les fusées entrèrent alors en action. Les mains de Jessica couraient sur les commandes mixtes, imitant les gestes assurés de son fils. Elle avait peur. Et pourtant, elle se sentait excitée. À présent, songeait-elle, l'éducation, l'entraînement de Paul constituent notre unique chance avec sa jeunesse, sa vivacité. Paul augmenta la puissance des fusées de queue. L'ornithoptère s'inclina et ils s'enfoncèrent dans leur siège en même temps qu'un mur noir se dressait sur le fond des étoiles. Les ailes se déployèrent. La puissance augmenta encore. Un nouveau battement, un nouvel élan, et ils survolèrent les rochers, arêtes de gel et lames d'argent. Sur la droite, la seconde lune d'Arrakis, sous un voile rouge de poussière, révélait le chemin de la tempête. Les mains de Paul dansaient sur les commandes. Les ailes se rétractèrent pour n'être plus que des élytres de scarabée. L'ornie vira brusquement et l'accélération pesa lourdement sur leur poitrine.
« Des fusées derrière nous !»
lança Jessica. « Je les ai vues. » Il bascula le levier de puissance vers l'avant. L'appareil se cabra comme un animal effrayé et se rua vers le sud-ouest, vers la tempête et la vaste courbe du désert. Tout près apparaissaient les ombres brisées qui révélaient la fin des rochers et le début des dunes, qui se déployaient comme autant de doigts inclinés sous la lune. Au-dessus de l'horizon, la tempête se dressait comme une vaste muraille, occultant les étoiles. L'ornithoptère fut ébranlé.
« Une explosion !»
haleta Jessica.
« Ils utilisent des projectiles !»
Il y avait un sourire sauvage sur le visage de Paul. « On dirait qu'ils évitent d'utiliser leur laser, » dit-il.
« Mais nous n'avons pas de bouclier !»
« Le savent-ils ?» À nouveau, l'ornie frémit. Paul se retourna pour regarder vers l'arrière. Un seul d'entre eux semble en mesure de nous poursuivre. Il reporta son attention sur les commandes, tandis que la tempête s'élevait au-dessus d'eux comme un rempart infranchissable. Lanceurs de projectiles, fusées, tout l'arsenal ancien, murmura Paul. Nous donnerons cela aux Fremen.
La tempête, dit Jessica. Ne vaudrait-il pas mieux faire demi-tour?
Et l'appareil qui nous suit?
Il rebrousse chemin.
Alors? Il rétracta les ailes et l'ornie bondit tout droit dans le bouillonnement lent et trompeur de la tempête. Paul sentit ses joues s'étirer sous l'effet de l'accélération. Il avait l'impression qu'il s'enfonçait dans un nuage de poussière qui se faisait de plus en plus dense. Le désert et la lune disparurent. L'ornie ne fut plus qu'un long chuchotement qui courait, horizontal, dans les ténèbres. Tous les avertissements qu'elle avait pu entendre à propos de ces tempêtes revenaient à l'esprit de Jessica. On disait qu'elle tranchait net le métal, qu'elle rongeait la chair et attaquait les os. Et tout autour d'eux, au dehors, elle sentait la pression de la poussière tourbillonnante. Paul luttait aux commandes. Il coupa la puissance et l'appareil roula dans un gémissement de métal. La coque trembla.
« Le sable !»
s'écria Jessica. Elle perçut son mouvement de tête dans la faible clarté. « Pas à cette hauteur !» Mais elle sentait qu'il s'enfonçait toujours plus avant dans le maelstrom. Paul remit les ailes en extension maximale et les entendit craquer sous l'effort. Ses yeux ne quittaient pas les contrôles. Il pilotait par instinct, luttait pour ne pas perdre d'altitude. Le bruit allait diminuant. L'ornie dériva sur la gauche et Paul, le regard rivé à la courbe d'altitude, livra bataille pour le redresser et le remettre en ligne. Jessica avait l'impression horrible qu'il s'était immobilisé et que tous les mouvements désormais n'intéressaient plus que l'extérieur. Seul le poudroiement brun derrière les baies, le grondement, les sifflements, lui rappelait les puissances qui se déchaînaient autour d'eux. Le vent doit bien atteindre 700 ou 800 kilomètres à l'heure, songea-t-elle, et elle perçut la morsure de l'adrénaline. La litanie Bene Gesserit lui revint. Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. Lentement, ses longues années d'éducation faisaient sentir leur effet. En elle, le calme revint. Nous tenons le tigre par la queue, murmura Paul. Nous ne pouvons pas descendre, nous ne pouvons pas nous poser, et je ne crois pas que je parviendrai à sortir de ça. Il faut suivre la tempête. Le calme reflua. Jessica sentit le tremblement qui agitait ses mâchoires, les serra désespérément. Puis la voix de Paul lui parvint à nouveau, basse, contrôlée. Il récitait la litanie. « Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. » Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien, rien que moi.